ça, Brassard, mon ami?
Kev en fut.
Hey, Kev, t'étais plus enthousiaste que ça la dernière fois. C'est-tu parce que t'es benché dans un beau gros divan puis que tu te chilles un peu ou t'as encore pogné ta maudite COVID longue qui est pas finie?
Ouais, ça ressemble un peu plus à ça. Là. La dernière fois, c'est qu'on a fait le podcast un petit peu plus tard.
Ouais.
Là, tu m'as texté à 6h30 le matin. C'est comme, hey, j'étais à l'entrepôt, tu viens-tu? C'est comme, ah, all right.
Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que t'arrives quand t'as un hyperactif qui se lève de bonne heure le matin.
Ouais, ouais, ouais. Mais non, je vais avouer que la COVID longue me magane pas mal plus que j'aurais pensé. Fait que je manque d'énergie, tu le quittes, tout est une montagne. Le dernier podcast que vous avez écouté, ben je vous avais dit que j'avais deux bières prêtes, pas embouteillées. Ils sont pas encore embouteillées. Et que je peux-tu dire que mon lagering va être exceptionnellement, la bière va être clean, 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 clean.
Fait que tu procrastines un peu, mon Kev, tu procrastines.
Ah, ben, on a d'autres responsabilités, on arrive en automne, on va commencer à fermer certaines affaires, juste pour dire qu'on fait clean-up. Mais tu sais, ça reste une responsabilité que quand j'ai de l'énergie, ben, il faut que je choisisse un peu mes combats. Ça manque d'avoir ma bière, ça manque de pouvoir... Il y a plein de monde qui me demande, hey, OK, quand est-ce qu'on voit de la bière, là, ça fait longtemps. C'est triste, mais je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont pouvoir s'associer à la situation hors de mon contrôle. Là.
Ben, peut-être le fait de recommencer à faire des podcasts plus régulièrement, ça va peut-être te donner le goût de recommencer à brasser, mettre tes priorités aux bonnes places, moins de fatigue.
Ah non, j'ai le goût, c'est juste un manque d'énergie qui s'explique plus ou moins. Mais en bout de ligne, écoute, les affaires, il faut qu'elles avancent chez nous. Il y a des projets personnels, puis une vie sociale qui n'était pas qu'est-ce que c'était, mais tous ceux qui me connaissent savent très bien que la vie sociale est extrêmement importante pour moi.
Aussi, bon, oui. Je pense que c'est l'affaire que, durant les dernières années, que t'as manqué le plus, c'était ta vie sociale.
Ouais, mais on dirait que je suis pas le seul. Oui, non, c'est sûr et certain. Écoute, c'est une grosse partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui organise, je suis quelqu'un qui invite souvent, qui attend pas que les choses arrivent pour avoir plein de choses, mais en bout de ligne, tu sais, même moi, j'ai arrêté de t'inviter là, tellement que...
Ouais, ben, m'emmener, Kev, là, quand ça fait 50 fois, tu m'invites puis je te dis tout le temps non. Tu t'es dit, ben, m'emmener, il va me dire, hey, tu fais quoi, je m'en viens faire un tour à la maison, là.
Ouais, c'est ça. En tout cas, on verra comment que le futur va nous emmener. Là, regarde, j'ose espérer de pouvoir prendre le gros beat de brassage, de vouloir avoir l'enthousiasme des projets, puis ensuite.
Fait qu'on va vous demander d'envahir les réseaux sociaux de Kev pour l'inciter à rebrasser de la bière puis lui redonner son sourire comme ça. C'est le sourire qu'on veut de Kev.
Ben là, regarde, je m'en vais en vacances dans pas long. On s'en va voir les vignobles en Ontario, dans
cool,
le coin
ça.
De le Prince Edward County, dans le coin de Sandbanks. J'ai quelqu'un qui connaît très bien la place, le kit. Ça va me faire sortir de la maison. Ça va me faire voir l'extérieur un peu. On va probablement accueillir un peu, faire un peu de vendange, puis socialiser avec quelques bonnes bouteilles pendant les vacances.
Ça, t'aimes ça aussi, hein, parce que si vous ne connaissez pas Kev, oui, il aime la bière. Oui, il boit beaucoup de bière dans sa vie. Pas tant, mais quand même. Mais il aime autant le vin, l'alcool fort, tequila.
Tequila, whisky. Tequila, whisky, c'est mes deux tops.
Tu sais, quand le gars, là, il manque de tequila puis il s'en va au Mexique aller chercher des bouteilles, là, c'est parce qu'il aime un peu trop ça. Là.
Il n'a pas longtemps. Ma tequila préférée pour le bourbon pas cher qu'on a disponible au Québec, c'est la El Jimador Reposado. Elle coûte environ 35 $. Écoute, oubliez la Sosa qu'on connaît souvent dans les bars, qu'on oublie la José Cuervo.
La Patron.
Oui, la patronne est quand même assez dispendieuse puis très extrêmement populaire aux États-Unis. La patronne a commencé à devenir de plus en plus disponible ici.
Je te coupe 30 secondes, là, mais je te garantis, moi, je vais souvent à SAQ, là. Puis dans le temps, là, l'été, là, quand c'est le temps de faire des affaires tequila, là, la patronne, elle passe pas à peu près, je vais te dire. Là. Il y avait des palettes, le lendemain, même, je retourne une semaine après, il n'y en a plus.
Ben, c'est ça, parce que quand on a la El Jimador, de temps en temps, on a eu, là, en début d'année, un problème d'exportation, de recevoir des lots, puis on n'en a pas eu pendant longtemps.
D'importation.
Oui, merci, dans le bon sens. Là-bas.
Je tiens aussi à dire qu'aucun Kev va être magané durant ce podcast. Hein, Kev?
Vous jugerez à la fin du podcast. Fait que quand on a découvert que la Dumadore, il n'y en avait plus pratiquement sur la rive sud au complet, on en a trouvé à Napierville. Ma femme a été faire le détour jusqu'à Napierville pour acheter 6 bouteilles. Comme ça, on a une réserve, on a une réserve de tequila un peu partout. Mais non, non.
Au Mexique.
Non, quand on était au Mexique, là, j'ai ramené du extra añejo, qui est, écoute, c'est des bouteilles là-bas qui ont coûté à peu près 200 piastres US chaque, là.
Oh, c'est malac!
Oui, c'était un... On est là-bas, on veut se gâter, puis ça, c'est des bouteilles qui vont me durer des années, parce que c'est toujours comme des petites dégustations. Et là, c'est ailleurs, parce qu'on en a des bouteilles de... Les bouteilles... La tequila a été vieillie dans des barils... De ça, cognac, puis ensuite. Donc là, on est ailleurs complètement, puis je vais faire un petit parallèle quasiment avec certaines saveurs de whisky comparativement à la tequila régulière. Et que, honnêtement, j'adore juste les bonnes choses. J'aime ça découvrir les choses.
T'adores découvrir des choses, t'adores faire des voyages, t'adores apprendre des nouvelles choses. Mais qu'est-ce que je trouve le plus drôle de Kev, c'est qu'il dit que ça va y durer longtemps, là. Mais c'est le genre de gars qui va l'emmener à quelque part pour la faire déguster au monde parce qu'il est trop heureux de montrer un nouveau produit, d'expliquer son voyage avec la bouteille. Je me rappelle que t'es allé à Porto, là?
Ouais, ouais.
T'es arrivé à combien de bouteilles chez nous?
5.
Puis on a tout pris, c'est pas, on n'a pas bu les 5 bouteilles. On a goûté aux 5 bouteilles. Puis il t'explique tout où il est allé chercher, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti là-bas. C'est vraiment, t'as l'impression de voyager avec lui. Au lieu de regarder des photos, tout simplement, mais tu regardes des photos en buvant, qu'est-ce qu'il t'explique? Mais c'est 100 fois plus intéressant.
Ouais, t'as raison, parce que j'ai déjà fait ça peut-être avec une dizaine de personnes avec mes bouteilles de tequila.
C'est pour ça que je te dis que tu te rends compte que oui, ils vont durer longtemps, mais t'aimes tellement partager que peut-être qu'ils vont durer moins longtemps de ce que tu
penses. Ouais, ouais, ben écoute, je spotte toujours les gens qui savent apprécier. Si quelqu'un me dit « j'aime la tequila », le kit où j'aime pas vraiment la tequila, ben, je vais te faire goûter d'autres choses, mais pas ces bouteilles-là nécessairement, parce que c'est comme, ben, tu l'apprécieras pas à son plein potentiel. Puis j'en aurai pas d'autres, c'est pas disponible ici.
Non, c'est
là. Puis à ce prix-là, on va attendre une couple d'années avant de réinvestir dans des bonnes dégustations expérimentales.
Fait que, où qu'on s'en va avec notre podcast, présentement, on parle de fort un peu, des voyages, toutes ces choses-là. En gros... On avait le goût de faire un podcast sur les bières en général, la bière de microbrasserie en général. On a fait beaucoup de styles, moi et Kev, dernièrement, dans les derniers podcasts que vous avez vus. Tel style, telle bière, on goûtait des bières qu'on avait eues en cadeau, qu'on achetait pour représenter le style. Puis on demandait au monde, on expliquait au monde comment les brasser, ces bières-là. Puis, en gros, avec le bar, avec de plus en plus de monde, moi j'avais comme référence ma boutique. Du brasseur, qui était la vente de matières premières. Fait que nous, on vendait des levures, on vend de l'équipement, on vend des houblons, on vend la matière première, le grain et tout. Puis c'est pas mal ça, notre guideline, si tu veux, pour faire les podcasts, tu sais.
Ben surtout que ta référence, si tu voyais souvent que les recettes, les gens disaient « Hey, je veux faire ça » ou demandaient conseil et que tu savais déjà un peu qu'est-ce que le monde tripait, puis c'était une bonne référence, là.
Exactement. Aujourd'hui, on a un bar, une microbrasserie puis un bar. Puis c'est pas le même genre de clientèle qui va venir au bar ou à microbrasserie que j'ai nécessairement au brasseur. Oui, on a des clients qui font les deux côtés, c'est super sympathique, mais on a aussi beaucoup de clients qui n'ont rien à faire de brasser de la bière. Eux, ils veulent seulement la consommer. Puis on a des anciens brasseurs qui reviennent, qui ont arrêté de brasser, puis qui font juste consommer de la bière présentement parce qu'ils veulent une vie sociale plus élaborée que les deux dernières années qu'on a eues. Fait que ça faisait en sorte que souvent, quand j'ai commencé à le micro, on voulait faire des tests, on voulait faire des choses, que ça s'en vient à être très grand pas. On va y revenir, mais on a quelque chose qui va arriver dans pas long. Je sais même pas c'est quoi, je pense, mais
cool.
Tu vas être au courant là.
C'est bon.
Tu dis oui ou tu dis non devant tout le monde, si ça te tente, mais tu vas comprendre tantôt c'est quoi. Je pense que ça va t'intéresser. Je pense. Fait que ceci dit... On a des demandes un petit peu plus spéciales. Je me renseigne un peu plus sur les styles que le monde veut. Tu fais-tu des smoothies? Tu vas-tu faire des sours? Tu vas-tu faire des bières à framboise? Tu vas-tu faire des... Puis là, ça m'a porté en réflexion en écoutant la télé. Moi, je réfléchis en même temps que j'écoute la télé, ça me relaxe. De dire, hey, on part de où puis on s'en va où dans la bière de microbrasserie? Un buveur de bière, c'est-tu rendu un buveur de cocktail? Comment qu'on a fait pour se rendre là? Puis vous allez comprendre, c'est pas une question de déblatérer sur un mauvais sujet ou de dire que si tu bois des smoothies, t'es cave. C'est vraiment pas ça le sujet aujourd'hui. C'est plus de dire, fait combien de temps tu bois de la bière à la micro, Kev?
Début 2000.
Début 2000. À peu près en même temps que moi. Puis quand t'allais au dépanneur chercher une bière de micro, t'allais dans au métro? Au IGA?
C'est la seule place qu'on avait. Sinon, c'est la... non, honnêtement, c'est vraiment la seule place parce que non, sinon, la SEQ...
Il n'y avait pas dans le temps au métro et au IGA.
Ben, c'est là que je pognais mes Unibrew.
Unibrew? Mais quand t'as commencé... Ouais, OK, Unibrew, ouais, ça compte pas, Unibrew.
Mettons qu'on parle... à l'époque, c'était ça.
Oui,
là.
Mais mettons qu'on parle là, vraiment la... quand les grosses micros ont commencé, tu sais, des vraies micro-brasseries. Unibrew, c'est tellement gros... qu'on va l'éliminer du lot parce qu'il y en avait dans toutes les épiceries, dans tous les dépanneurs.
Non, à l'époque, il fallait aller directement au bar.
Ou dans la brasserie, dépanneur là. À bière spécialisée.
Oui, puis à cette époque-là, t'es cherchais, là.
Ben, il y en avait un juste à Sainte-Catherine, le G-Lord.
Je ne connais pas.
Il était sous centrale. Lui, il y avait... S'il y avait des tablettes de 10 pieds, 3 tablettes de 10 pieds, c'était beau, là. C'était plein. C'est pas comme aujourd'hui que t'as un magasin de 3000 pieds carrés rempli de
bière. Non. Mais tu sais, je sais, depuis des années, t'as Paluzzo à Montréal qui est extrêmement populaire. Tu sais, c'est vraiment des instituts de... Tu sais, c'est vraiment des dépanneurs qui ont décidé de prendre une section puis de développer ça. Il y avait certains endroits à Longueuil. C'est pas Adelson ou quelque chose? Le gars qui était dans un demi-sous-sol.
C'est à Sainte-Catherine.
À Sainte-Catherine. Ben, je faisais le détour à ce dépanneur-là pour aller dans le sous-sol, pour aller pogner des bières de micro, puis il y avait accès à des choses. Puis à l'époque, avoir ça, tu t'en trouvais pas ailleurs.
Exactement.
Et qu'aujourd'hui, c'est pas la même game.
Mais dans le temps... Là, on va revenir. Je voudrais que je l'entende mon père parler. Dans le temps, moi, c'était pas de même. Quand on a commencé à boire de la bière de micro, quand la bière de micro a été populaire, il y avait deux choses essentielles pour savoir si c'était une bière de microbrasserie. Un, la forme de la bouteille.
C'est un standard parce que normalement, c'était le 331 ou 341 millilitres que tu voyais dans les bières commerciales. Mais là, de la micro, c'était d'autres choses.
On avait la bouteille, soit le long neck ou le short à 500 ml. Un peu comme qu'on vend aux brasseurs pour mettre vos bières en bouteille. Puis l'autre chose, quand tu prenais une bière de microbrasserie, il y avait un dépôt à l'intérieur.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui, mais c'était affiché souvent dans la description « non filtré ». Puis il y a une association qui s'est faite parce qu'on se disait toujours « non filtré », donc il y a plus de saveurs qui restent là. C'est pas grave, c'est un petit peu trouble. Parce que veux pas, la filtration enlève une partie parce que les microns sont tellement petits pour rester là qu'on enlève les particules de levure, des particules de houblon. C'est normal que ça l'enlève, ça, mais l'association de la microbrasserie, c'était du non-filtré, puis on voulait avoir plus de saveur, on voulait avoir... C'est pas grave, puis c'était comme ça qu'on voulait ça.
Bien, surtout quand tu brassais de la bière aussi, parce qu'on a commencé probablement en même temps, je pense, de brasser. Ça fait quelques années que tu brasses aussi, là.
Oui.
Puis... on pouvait même des fois reprendre le fond de levure pour reprendre la levure pour refaire une batch avec si on l'a aimé. On avait deux choix, là. Soit que ça fonctionnait super bien parce que la personne n'avait pas mis une bouteille, une levure de refermentation, ou soit tu te faisais avoir et tu avais une F2 ou une CBC1 pour fermenter.
Ouais. Là, tu ne ferais pas grand-chose avec ça, là. Mais.
Fait qu'aujourd'hui, bière de micro, 90% là, rendu aujourd'hui, ces tablettes, c'est quoi? C'est des cannes?
Je vais dire peut-être un 75%, mais c'est comme je te dirais, probablement depuis les 4-5 dernières années, là, le changement s'est fait drastique entre de la bouteille à la canne.
Mais je parlais avec mon ami qui avait un dépanneur à bière, justement, puis il dit « si c'est pas en canne, ça sort pas ». À moins que ce soit des produits d'exception, on s'entend.
Si oui, des affaires vieillies.
Des choses comme ça, oui, ça va sortir, les bouteilles sont aussi plus dispendieuses. Mais la personne qui a le choix entre une IPA en canne ou une IPA en bouteille, nécessairement, il va aller en canne.
Mais c'est vraiment une nouvelle association qui s'est faite. La popularité de tout ça, ça se transporte pas mal plus facilement.
Ouais.
C'est protégé 100% de la lumière. Il y a beaucoup de choses qui deviennent intéressantes. Puis il y a moins de chances que si tu l'échappes, ben, ça peut te blesser. Le côté recyclage, c'est que l'aluminium est recyclé à 100%.
Ouais.
Et il y a plein de choses avantageuses de prendre la canne, mais ça l'a fait quand même c'est une mode qui a pogné, puis le monde l'ont gardé comme ça aussi. Là,
ben parce maintenant, que... les bières sont refermentées en canne ou en bouteille, non. Ils sont gazifiés mécaniquement avec un bright tank.
Mm-hmm.
Il n'y a plus de dépôt à l'intérieur de la canne.
Non, parce que le dépôt se crée par une refermentation en bouteille la majorité du temps, ou bien que c'était une genre d'IPA qui avait énormément de dépôt. Oui, c'est ça.
Mais normalement, c'est ça. Fait que là, on a passé d'une bouteille standard normale à, que tu reconnais, à une bière à microbrasserie. Puis, écoute, une bière de microbrasserie, là, si on recule, là, on recule là, 6 ans, mettons, quand j'ai ouvert la boutique, il n'y a personne qui buvait sa bouteille. Tu versais tout le temps ça dans un verre.
Toujours. Mais c'est la façon de faire dans le but d'avoir le maximum de saveurs et arômes. C'est un peu le même principe. Vous prenez une bouteille de vin puis vous la buvez en bouteille. Vous pouvez la faire, mais vous manquez un peu beaucoup l'expérience. Puis le but de la bière de micro, c'est d'avoir cette explosion de saveurs, de décortiquer la complexité de la bière, mais on manque tout si on ne le prend pas dans un verre.
Mais pourtant, aujourd'hui, je vois beaucoup de monde boire des cannes directement à canne.
Je le fais pas plus.
Non, toi, moi non plus. Moi, je le mets dans un verre. Mais tu sais, tu vois, le clash qui arrive présentement, c'est qu'on a passé d'une bouteille qu'on voulait faire découvrir un peu comme qu'on parlait tantôt avec Kev, quand il fait ses voyages, qui s'en va prendre des bouteilles d'exception, qui ramène au Canada ou au Québec, puis il va faire repartager à ses amis. C'était un peu ça que j'aimais de la bière de microbrasserie. C'était, je viens de trouver une bière que j'aime, je prends le temps de déguster, je mets ça dans mon gazebo, bien relax. Je m'allumais un gros cigare ou des fois juste une cigarette, parce que oui, je fume. Puis, puis je goûtais à la bière. Puis là, souvent, je pouvais appeler des amis pour venir goûter à la bière que j'avais achetée pour partager ma passion puis comprendre les arômes. Puis en plus de ça, moi, je brasse de la bière dans la vie. Fait que j'essayais de reproduire qu'est-ce que je buvais en faisant de la bière. Puis beaucoup de monde qui buvait de la bière de micro, c'est des brasseurs aujourd'hui, là. On se le cachera pas. 80% du monde qui buvait de la bière de micro brasse aujourd'hui ou a déjà brassé dans leur vie.
Bien, la popularité de la bière a créé l'intérêt de dire « Hey, c'est faisable de le faire », à comparer de l'époque qu'on a commencé à brasser. On a tellement d'informations aujourd'hui, on a tellement... Regardez tous les podcasts, que ce soit toutes les vidéos que Fitz se fait depuis des années, des méthodes de faire, les suggestions. C'est tellement facile d'accès que... Tout le monde peut s'asseoir facilement. Puis après ça, bien, quand tu as découvert que c'était bon, OK, comment je peux m'améliorer? Comment que je peux emmener ça à une autre étape? Et je pense que l'accès à l'information aujourd'hui a pas mal changé la donne que les gens ont dit OK, c'est beau, je peux le faire.
Mais on se cassait-tu plus la tête quand on a commencé à brasser vu qu'il y avait moins d'informations? On faisait plus de tests? On s'arrangeait. Écoute, quand tu voyais un brasseur d'un festival, on parlait de Chambly parce que c'est un festival assez connu, puis que c'est un des premiers, c'est pas le premier festival de bière. Hey, si tu rencontrais un brasseur, tu pouvais passer 5-10 minutes, tu voulais pas trop l'acheler pour qu'il te réponde à tes questions, mais tu étais excité de voir le brasseur, puis tu étais comme oh, OK, je vais lui poser 2 questions bien vite, ça paraîtra pas dans la conversation, puis je le laisse aller parce que je veux pas l'écœurer, puis je veux le voir l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a tellement de micros, il y a tellement de brasseurs, c'est comme. Rendu quasiment comme...
C'est pas une rareté. C'est pas une rareté maintenant avec l'information. Et, t'sais, puis chacun un peu sa méthode de travail. La base va toujours rester la même, mais de qu'est-ce qu'on a toujours à apprendre? Ben même nous autres, des fois, si je vais faire un projet extérieur, si je m'en vais faire quelque chose que, regarde, j'ai changé mon filtre, mon sable de mon filtreur à piscine. J'ai pas pris de charge, j'étais voir sur YouTube.
Oui, c'est ça.
C'est pas mal ça.
Fait que tu sais, au moins aujourd'hui, on a accès à plus d'informations, on a accès à plus de choses. Mais en même temps, il me semble que découvrir qu'est-ce qu'il avait mis dans la bière, avoir le petit étincelle de dire « Hey, je pense que je suis capable de le faire moi aussi.
Ouais.
Je suis pas plus grave qu'un autre, je suis capable de le faire. » Des fois, ça marche pas.
Non, mais le spark, éventuellement, c'est quand tu arrives à maîtriser la base, c'est de te surpasser. De te surpasser dans la méthode... moi, mon défi, puis ça fait partie de ma personnalité, c'est comment que je peux maximiser mon temps pour perdre aucun temps dans ma journée de brasse. Ouais. Donc, pendant que je suis en train de faire ça, je suis déjà en train de préparer la prochaine étape. Il y a un roulement qui fait que j'ai rapetissé ma journée de brasse pour la maximiser, puis ce qui fait que mon produit est top-notch, là, si j'ai pas de contaminé, évidemment.
Oui, non, mais ton produit, c'est un produit de vraiment de bonne qualité. Kev, il brasse ses bières à lui... sa façon de brasser à lui, puis dans qu'est-ce que le goût de boire dans les prochains mois.
Oui, mais c'est vrai, c'est ça.
Il y a des bières qui fait que j'aime un peu moins, puis il y a des bières qui fait que j'adore. parce que c'est sa façon à lui de travailler son grain, c'est sa façon à lui de d'amener son expertise, que qu'est-ce qu'il veut faire.
Puis tu sais, la réalité, c'est que quand vous allez acheter vos bières de micro, éventuellement, vous allez tomber en amour avec une compagnie plus qu'un autre.
Oui.
Que vous aimez un style de bière, c'est une chose, mais vous allez voir que les autres produits que vous allez goûter, même si c'est moins de votre style, vous allez dire, hey, ça, c'est de la qualité. Vous voyez la différence parce que plus qu'on boit, plus que notre palais se développe pour voir, OK, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et au même principe que quand vous allez brasser chez vous à la maison, les extras que vous allez faire, les techniques, les choses que vous allez peut-être changer va faire que votre produit, vous n'allez pas augmenter de 50 % de qualité, à moins quand vous commencez, mais éventuellement, vous allez voir la différence comme, OK, non, en faisant ça, je viens de sécuriser, on enlève l'oxydation possible, on va donner les matières, qu'est-ce qu'on va pogner, d'aller acheter comme le houblon peut-être plus frais, que ce soit des retours de batch, puis ainsi de suite, tout dépendant où c'est que vous achetez votre matière première. Je vous suggère que ce soit chez le brasseur, parce que oui, je vous confirme que Fitz a toujours du produit frais à la maison.
Ouais. J'essaie.
Mais c'est la réalité qui va vous donner l'extra différence de votre résultat, puis que vous allez être de plus en plus fier de ce que vous avez fait.
Mais tu sais, si on revient au contenant, parce qu'après ça, on passera au contenu.
Oui, c'est bon.
Mais non, mais moi, je pense qu'on est rendu à la canette, tout simplement parce que quand tu avais une microbrasserie en bouteille, je vais parler de moi parce que j'ai l'expérience présentement d'avoir une microbrasserie puis d'avoir travaillé avec les différents organismes qui existent pour. C'est que si tu es en bouteille, je pense que je suis obligé de récupérer les bouteilles. Fait que si je te vends des bouteilles, je deviens comme un dépanneur. Ça veut dire qu'il faut que je récupère ma bouteille, soit que je la lave ou soit que je la détruis. C'est ma responsabilité. La canne, je peux me tromper, mais c'est qu'est-ce que j'avais compris. Tandis que la canette, j'avais, tu vas la porter à l'épicerie n'importe où dans ton sac de récupération, puis tu as payé ton dépôt, tu le reçois. Fait que c'est un peu moins compliqué pour le brasseur, surtout comme dans ma situation en moi, que c'est miniature comme salle de brassage, c'est miniature comme entrepôt. Mon entrepôt, c'est du brassage. C'est mon corridor pour aller à la sortie de secours. Fait qu'on s'entend que je peux pas mettre des palettes là, puis ramener ça à mon entrepôt où on est présentement. C'est comme impossible aussi. C'est une chose qui va être trop difficile à évaluer avec les bières pas rincées, avec les mouches à fruits. Puis si. Non, mais.
C'est maudite mouche à fruits, là.
C'est un peu plus complexe. Fait que mettons que la canette a vraiment facilité la vie du brasseur, en même temps, comme Kev disait tantôt, faciliter le transport pour le buveur.
Puis quand que tu fais ça tout à la main, on s'entend-tu qu'une caisse de canette d'aluminium pèse pas le même poids que ta caisse de bouteille en vitre? Et que, tu sais, je sais que nous, quand on avait embouteillé ensemble, on met tout ça dans le lavabo, ça prend pas de place. Si ça se cogne ensemble, c'est pas grave, ça va pas les endommager.
C'est ça.
Et qu'il y a beaucoup de choses dans la manipulation qui aident énormément dans la méthode de travail.
Ouais.
Et moi, je fais juste penser à la dernière fois qu'on a été faire du kayak. Mais je me suis emmené des cannes, j'avais pas de verre, mais une bouteille, ça aurait été pesant dans mon sac à dos. En plus, je ramène tout ça avec moi. Je l'ai bu à la canne, mais j'étais en plein air, puis c'était correct. À bouteille, ça aurait été un autre challenge plus pesant, plus encombrant. Là, c'était pas un problème, là.
Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est facilité pour tout le monde. Mais je trouve qu'on a perdu quand même un peu l'âme. Puis je suis le premier qui fait des cannes, là. Fait que je suis pas en train de dire que c'est con de faire des cannes. Je vois les avantages, je vois les inconvénients. Mais si on revient comme qu'est-ce qu'on disait tantôt, je trouve qu'on a perdu un peu l'âme de la microbrasserie avec la canne. Là, à ce temps qu'on a parlé du contenant, on va parler du contenu un peu, de où qu'on part, de où qu'on vient, de où qu'on s'en va, juste pour comprendre un peu plus les différents styles.
Avec un petit fait intéressant, une petite parenthèse comme ça, ceux qui ont les boutiques de spécialisées en bière, je pense que ça arrive assez souvent, malheureusement, quand que les microbrasseries envoient des bières finalisées, des fois, la fermentation n'a pas tout à fait fini. Et ça arrive assez régulièrement qu'il y a des bières qui explosent dans les boutiques.
Mais, parenthèse dessus ton...
De ma parenthèse?
De ta parenthèse, parenthèse dans une parenthèse. Une chance qu'on n'a pas appris à écrire un texte, mais il y aurait plein de parenthèses, le monde serait tout fourré. Bon, finis cette parenthèse-là, rouvre l'autre parenthèse. Je sais qu'il y a eu un moment que les bouteilles explosaient vraiment régulièrement. Puis c'était quand ils ont commencé à faire des New England IPA.
Oui, ça c'est une chose parce que, autre parenthèse, pour ceux qui voulaient savoir, pour ceux qui voulaient savoir pourquoi ça explosait plus, c'est qu'on a redécouvert des méthodes de travail que quand on rajoute du houblon à la fin en dry up très tard, les particules de houblon vont continuer à casser les branches de sucre. Et que si on fait un dry up trop rapidement puis on embouteille tout de suite après, il y a des chances qu'il y ait une refermentation de sucre plus complexe qui devient plus simple et qui se fait remanger par la levure. Donc, on crée beaucoup plus de pression qui risque d'exploser, dont les New England IPA qu'on parle. Fin de parenthèse.
Souvent, c'est à cause de... Rouvre l'autre parenthèse. Souvent, c'est parce que aussi on a la mise à froid. Fait qu'on va mettre le dernier dry-up 3 jours avant d'embouteiller à froid pour garder plus possible les arômes. Si on le met à température ambiante, à 20 degrés, la fermentation va continuer à ton fermenteur. Mais en microbrasserie, on veut garder le plus possible les arômes, ces choses-là. Fait qu'on va le mettre à froid. Souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas une chaîne de froid de A à Z. Fait que on peut parler comme du kombucha, qui est un peu le même principe. C'est que la personne qui fait son kombucha, elle est vivant. Fait que le magasin qui le vend, il faut qu'il le mette au froid. Si tu la jettes, ton kombucha, puis tu le mets dans ton auto à 30 degrés, puis tu vas faire tes commissions, puis tu reviens 2 jours après, parce que tu l'as oublié la bouteille, ça va être explosé. C'est un peu le même principe. C'est de connaître le processus pour pas que ça arrive. Fait que tu vas avoir les dépanneurs ou les épiceries qui n'ont pas assez de frigo pour ce type de bière-là. Fait qu'ils vont les mettre soit dans le backstore, soit sur des tablettes. Puis en faisant ça, ben la refermentation reprend. Puis c'est là que la bouteille explosait pour les NEIPA.
Oui, donc on parle vraiment des particuliers de NEIPA. Parce que normalement, la fermentation est finie dans ton fermenteur. Ils vont faire le transfert dans ta bright tank, puis ils vont les mettre en canne et en bouteille.
Exactement.
Mais, fin de parenthèse, donc, juste tout ça pour finir ma phrase que j'ai quasiment fini. Ceux qui ont des boutiques, c'est pas mal moins dangereux une canne qui explose qu'une bouteille qui explose.
Oui.
Parce que vraiment, là, j'ai vu du dommage. Parce que sinon, si la canne explose, ça, c'est juste le couvercle qui va faire pop, ça va mousser, ça va revoler un peu partout. Ça va faire du bruit, mais c'est pas grave. La bouteille, tu peux en avoir 1000 morceaux, tu peux te blesser.
Ça rappelle-tu mon Kev, là? Tu sais où je m'en vais?
Oui,
là,
hein? Je sais très bien où c'est que tu t'en vas avec ça.
Kev, il m'a emmené des bouteilles, puis probablement que dans un de ses équipements, il y a eu une bactérie.
Oui,
dans la bouteille, ou peut-être dans le couvert de la bouteille.
Non, c'est ma tige. J'ai trouvé ça après. C'est ma tige d'embouteillage qui a eu un contaminant. J'ai eu beau le nettoyer, frotter tout le kit, puis je m'en ai débarrassé. Je suis pas capable de m'en débarrasser.
Puis c'est drôle parce que Kev, écoute, il m'en a donné beaucoup des bières dans ma vie, là. Puis c'est une des fois, c'est rare qu'il y avait du gros gushing pis tout, mais cette fois-là, je rouvre une bouteille puis tu sais, ça se met à gusher, là, puis solide. Fait que, étant un brasseur moi-même, puis quelqu'un que ça a déjà arrivé, je la trouvais bonne quand même, sa bière. Elle n'avait pas nécessairement de faux goût, mais...
C'est un problème technique, là.
Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai mis au froid. En le mettant au froid, je pars, puis on était ici dans l'entrepôt. La bouteille, elle a sauté dans le frigo. Puis j'en ai d'autres températures, puis elle est juste à côté. J'ai 500 pieds de studio d'enregistrement, puis c'est pas très haut ici, là, tu sais. C'est pas un toit cathédrale, là. On a quoi, un 8 pieds et demi, peut-être, de toit maximum?
Ouais, à peu près.
J'ai trouvé de la vitre aux 500 pieds carrés à grandeur. Puis quand je suis arrivé, il restait une bouteille intacte. Fait que j'ai tellement eu peur que j'ai pitché un seau par-dessus la bouteille. Puis pendant que je suis en train de nettoyer mon grandfather, j'ai entendu un « Boum! » La bouteille, le seau a levé par-dessus avec la bouteille à l'intérieur.
Deux petites choses très cocasses là-dessus. C'est que, un, Fitz n'avait pas encore rentré son air climatisé ici.
Non.
Et qu'il faisait en haut de 30 degrés.
Ouais.
Parfait pour vraiment vouloir partir une fermentation ou bien que la bactérie se développe encore plus. Et dans le studio ici, le plafond, c'est tout des genres de petites mousses pour pouvoir couper l'écho. Et on a retrouvé des mousses à terre parce que la vitre a revolé au plafond, ça l'a chopé, ça l'a coupé une partie. Et, oui, c'est très dangereux.
On a mieux une canne qui explose qu'une bouteille de vitre qui explose pour la parenthèse finale, je pense.
Oui, la parenthèse finale. La seule chose, c'est que pour ceux qui brassent à la maison, on s'entend qu'un équipement pour embouteiller régulièrement coûte pas mal moins cher qu'une encanneuse.
Oui, aussi.
Ça, y a la seule chose, par exemple, une bonne encanneuse va être assez dispendieuse. Et, mais regardez, c'est
pas tant le coût de la, pour la sertisseuse, là, pour l'encanneuse, mais surtout la sertisseuse, là, qu'on va dire que l'encanneuse, c'est comme le processus complet, ça, c'est trop cher. Mais juste la sertisseuse, comme moi, j'ai, avec Canular, ils en font une, et 1200, fait que puis même octobre. La mienne, c'est quoi,
ouais,
c'est octobre?
Ouais, je pense que oui.
Ouais, c'est au cas, là. C'est quand même rendu assez abordable, entre 1000 et 2000 $ US. C'est... Non, mais c'est quand même abordable.
Oui, mais entre juste un bâton puis mettre une encapeuse qui va te coûter 35 $ plus tes bouchons.
Mais le gros point que je veux dire, c'est que tu peux te mettre à 5 personnes puis t'acheter une... Puis c'est pas oui. si cher parce que tu vas pas tout embouteiller en même temps. C'est plus le coût des cannes. Parce que la bouteille, on a bien beau dire que la canne est récupérable à l'infini, mais on n'a pas rien, nous, pour en fabriquer, puis découler, puis tu sais, refaire la canne.
Pour ceux qui travaillent avec les bouteilles à la maison, mais moi, mes bouteilles, je les relave, je les lave, donc c'est à l'infini.
Exactement.
Puis tu sais, l'acier, présentement, là, je travaille dans l'acier, puis là, les prix sont en train de baisser, mais ça reste quand même toujours un coût mondial. Un, l'approvisionnement, l'aluminium, le prix a augmenté. Ben quand Schwitz achète sa matière première pour ses cannes, les prix ont tout augmenté. Là.
Fait que ça fait en sorte que la canne, le 15 à 24, coûte relativement cher. Puis un coup, tu l'as ouvert.
C'est fini.
C'est fini, puis t'achètes. C'est le fun si tu veux en donner à du monde, ouais. T'as pas de bière. Comme Kevin dit, tu vas faire du kayak, tu vas monter une montagne, tu vas faire du bateau. C'est super cool. Mais t'as l'inconvénient de le coût à long terme. Tu sais, t'as besoin de 3, 4 caisses à 24 pour faire une batch à 23 litres. Puis après ça, faut que tu rajettes. Fait que le coût au bout de la ligne, c'est... oui, la canneuse est assez dispendieuse, mais si tu calcules le nombre de cannes dans une année, ça va te coûter 3 fois plus cher que ta canneuse.
Ah, c'est sûr et certain. Juste moi, les bouteilles, c'est sûr que j'aurais aimé ça canner, mais ça me donne plus de travail de reprendre le temps de prendre mes bouteilles, ouais. De les laisser tremper, de brosser, de faire une inspection visuelle, s'assurer qu'il n'y a rien qui a resté, donner des instructions à tout le monde. Tu pars avec ma bouteille, je veux que tu la ramènes, je veux pas que tu la nettoies, je veux que tu la rinces parce que je veux pas du savon à l'intérieur. T'sais, je donne toujours ces instructions-là, puis moi, après ça, je me ramasse pendant des heures à nettoyer. Tu n'as pas ce problème-là avec du la cannage, mais éventuellement, tout ça a un coût.
Exactement. Tandis que pour la microbrasserie, ben, t'as pas de nettoyage à faire de bouteille, t'as pas de bouteille qui explose, t'as pas de... Fait que le coût est là, oui, mais est remis dans le produit qu'on va vendre. Tandis qu'à la maison, tu peux pas vendre tes cannes. Puis souvent, on veut même pas... Tu sais, je me rappelle, j'en donnais de la bière. Je sais, j'avais pas le droit. Mais je donnais quand même de la bière à des amis. Puis, tu sais, j'étais content. Puis le monde me disait, ah, comment je te dois? Rien. Je veux que tu me donnes tes vraies impressions. Puis souvent, je faisais exprès pour mettre une bière qui n'était pas bonne pour voir s'il me donnerait ses vraies impressions. Mais ça, c'est moi personnel.
T'es vraiment chien.
Ah, oui, je suis chien, mais quand je te demande quelque chose, tu sais, je te le donne. Puis ma paye, c'est me dire tes impressions.
C'est juste des vrais chums qui vont te dire vraiment si c'était pas bon. Parce que sinon, au même principe que tu regardes là, une bonne bouteille de vin là, que ton chum a faite, puis tu regardes en pleine face, qu'est-ce que t'en penses? C'est correct.
Fait que, tout ça pour dire que les cannes, il y a un coût relié à ça. Il y a un plus puis un moins, autant dans l'amateur que dans le pro. Mais tu sais, pour te faire, mettons, une vingtaine de cannes par année, acheter la canneuse, ben, la sertisseuse, c'est peut-être un peu trop cher. Tout ça pour dire ça.
Ouais.
Fait que, contenu. La bière, en général, à l'intérieur de la bière, on a parlé beaucoup qu'avant, c'était refermenté en bouteille, qu'il fallait avoir un lit. La bière est un petit peu plus trouble. Le fait d'avoir les levures aussi vivantes dans notre bouteille de bière qu'on avait donnait un goût particulier à la bière parce que la bière n'arrêtait pas de vieillir. Elle n'arrêtait pas de vieillir, justement. Elle continuait parce qu'elle était sur un fond de lit. Puis souvent, je me rappelle que certaines bières, ben, je brassais. Fait que je faisais un spar pour avoir une belle bière. Puis l'autre moitié, je brassais mon lit pour avoir le goût de la levure incomplète. Fait que tu sais, tu prenais un Hefeweizen, un exemple. Crime! La première était comme plus clean, était translucide, avait un certain goût. La deuxième partie, tu avais vraiment le goût de banane prononcée ou de clou de girofle. Ou de, tu avais vraiment le feeling de la levure. Qu'est-ce que présentement, on n'a plus, parce que à moins que tu prennes une bière vieillie en bouteille, mais comme on disait au début, c'est peut-être 20%, même pas, de ce qui nous reste. Fait que c'est plus compliqué à aller rechercher nos goûts puis nos... l'expérience oui, de la bière.
Ben c'est pas mal plus l'expérience, parce que moi, qu'est-ce que j'aime, dans certains cas, il y a des microbrasseries qui te disent de prendre justement la canne et bien de la shaker avant, parce que lui, sa recette, il dit, pour goûter ça, brassez-la ou bien mettez-la à l'envers dans votre frigo.
C'est surtout des...
Des cannes,
là. C'est surtout des smoothies, ça.
Est-ce que tu te rappelles quand que Tamarack, bière Tamarack, est venu ici?
Oui.
Il avait emmené une de ses bières qui n'était pas une smoothie.
Oui, 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 c'est
la blanche. Puis il avait dit la blanche, puis il dit, mettez-la à l'envers, comme ça, tout va bien se mélanger au niveau des levures. Puis quand tu vas la servir, elle va rester trouble, parce que c'est ça qu'il voulait comme résultat de produit. Oui, et qu'on oui. a son instruction, a dit, ben on va vivre l'expérience comment que lui veut qu'on la vive.
Oui, exactement. Fait que ça, c'était vraiment cool, par exemple, parce que il marquait sa canne. Mais y a-tu encore beaucoup de monde qui lit les cannes ou on regarde plus les dessins?
OK. Moi,
le silence est d'or.
Non, mais c'est à mon goût personnel. Je trouve qu'au Québec, y a une minorité que je trouve que les designs de cannes ou de bières, peu importe, viennent me chercher. Je trouve ça affreux. Je trouve ça vrai. Et pour moi, c'est pas vendeur, ça fait pas marketing. C'est quelqu'un comme, oui, c'est des artistes, oui, mais... Tu sais, combien de personnes dans votre vie que vous connaissez qui est arrivé avec une bouteille de vin et ont dit « j'aime l'étiquette ». Écoute, tout le monde l'a vécu, mais dans la bière...
Je pense que 90% du monde achète une bouteille de vin par rapport à l'étiquette.
Mais dans la bière, c'est lait. Puis il y en a des compagnies qui sont venues me chercher, puis c'est comme « wow, OK, ça c'est marketing, ça, ça fait professionnel ». Peu importe comment qu'ils ont été les chercher, là, je veux dire, je ne juge pas l'or en tant que tel, mais des fois, c'est comme... Calide! Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc,
Puis, on n'a pas nommé aucune microbrasserie.
Non, j'embarque pas là-dedans.
C'est ça. Fait qu'on est parti après ça, quand on commençait à boire des bières. Je pense que... Qu'est-ce que j'aimais personnellement en buvant de la bière de microbrasserie en général, c'était de voyager avec l'expertise du Québec. Fait que si je voulais une bière anglaise, je voulais une bière allemande, tchèque, une bière faite au Québec, mais tu sais, comme qui me faisait voyager. Fait qu'on avait des stouts, on avait des brown ale, des mid ale, on avait des lagers. On n'avait pas de lagers. C'était rare, les lagers.
Non, parce que même moi qui brasse pendant des années, le défi de brasser des lagers, l'équipement... pour pouvoir brasser des lagers. Tu sais, au côté professionnel, c'est une chose, mais le temps de fermentation, de cold crash, joue un rôle aussi de dire, t'as un roulement d'argent. Écoute, Fitz n'a même pas fait encore de lagers chez eux.
Ouais, mais tu dirais-tu que on recule, là, encore, que les lagers, pour un buveur de micro, c'était industriel?
Notre association, c'est ça, parce que comment de personne qui me dit « j'aime pas la bière », parce que dans la tête des gens, c'était une lager, parce que nous, au Québec, c'est vraiment Labatt Molson qui avait le gros du marché. Puis les gens buvaient ça, ils faisaient l'association, ça goûtait ça, une lager. Mais tu sais, on dit lager, mais il y a encore une grosse branche de lager. C'est juste qu'on peut-être plus au niveau Pilsner, peut-être ouais. Un petit peu ambré, puis ensuite. Mais sinon, ça se ressemble. C'est minimaliste, un petit peu de houblon, le côté amertume est un petit peu élevé. L'effervescence est présente, puis ensuite, mais on ressortait pas des sentiers battus, tandis qu'on était dans les L, mais les branches étaient beaucoup plus larges, plus de saveurs, plus de... Parce que vu que c'était fermenté à chaud, souvent, les levures, tout dépendant des levures qu'on utilisait, allaient chercher plus d'ester, plus d'arômes qu'on ne retrouvait pas du tout dedans. Fait que nous, on était juste contents de passer à une bière standard commerciale, filtrée, à... Hey, ça goûte quelque chose, c'est différent.
Mais je t'écoute parler, là, puis je me dis tout le temps, on est-tu en train de revenir vers le commercial pour attirer plus de monde dans la microbrasserie? Ou, parce que, on se le cachera pas, là, j'emmenais des bières chez des amis, là, puis c'était comme, man, c'est ben trop goûteux, man, c'est ben trop foncé, man, c'est ben trop. Que tu faisais? Ouais, mais tu sais, toi, tu bois de la Labatt bleue ou tu bois de la Budweiser ou tu bois de la Coors.
trash, le clash est très, très gros.
Mais là, on est en train de revenir vers, pour attirer du monde, on commence à faire des lagers pour justement aller chercher une plus grosse clientèle pour voler une plus grosse part de marché aux industriels. Oui, c'est plus goûteux, on se le cachera pas. Là. Une lager qui est bien faite par une microbrasserie, elle n'est pas, pas filtrée. Oh, je dis qu'elle n'est pas filtrée, mais je commence à avoir beaucoup de pauses puis beaucoup d'équipements à vendre ou du monde qui me parle des filtres pour filtrer leur bière parce que c'est ça qu'ils veulent.
Ben, moi, si on s'en va dans une lager, automatiquement, je m'attends pas que ma bière soit trouble.
Non, mais peut-être bien travailler sans être filtré.
Oui, oui, oui. C'est très possible parce que le cold crash, s'ils sont patients pour bien faire la job, c'est pas grave s'il y a un petit, cloud dedans minimaliste, mais c'est pas comme une L qui peut light. Là. Je m'attends d'avoir une bière comme relativement très claire. C'est juste généralement s'ils ont fait leur cold crash, mais tu vas chercher le moins possible le fond de ta cuve pour s'assurer d'avoir plus de troubles du tout.
Oui, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une question que je pose largement parce que j'ai pas la réponse puis je me prétends pas de l'avoir. Mais d'après ce qu'on parle depuis tantôt, on dirait qu'on essaie d'aller chercher des parts de marché aux grosses brasseries en imitant les grosses brasseries.
Ben, j'ai ma théorie là-dessus. Sachant que nous, ça fait longtemps qu'on boit de la bière, qu'on fabrique la bière, on a vu l'évolution un peu au Québec, la popularité, puis ainsi de suite. Même moi, mon goût, en vieillissant ou en voyant les choses, a changé. C'est plus qu'est-ce que c'était. Et j'ai même un feedback avec les gens que je vais discuter. Ils sont tannés des New England IPA. Ils sont tannés.
Ouais, là, on va y aller vers ça, là.
Mais, il y a un petit peu de ça aussi parce que je pense qu'il y a un regain de dire je vais pas plus aller acheter de la bleue ou de la Molson à mon goût personnel à moi, mais c'est un style que j'ai appris à apprécier et arrêter de juger parce que l'association se faisait automatiquement par les bières commerciales. Ben écoute, on a tout un jugement interne dans notre subconscient qu'on se dit, on le dit pas, non, je le juge pas, mais en fin de compte, des fois, on fait des choix un peu en conséquence de ça.
Ben, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas quand on a commencé à boire, parce qu'on a trop associé. Il y avait un plus... Je trouve que quand on a commencé à boire la bière de micro, quand les premiers micros ont sorti au Québec, il y avait un plus gros clash entre le commercial et la microbrasserie. Fait juste regarder McLawson, qui faisait des bières vraiment torréfiées, vraiment comme... C'était marqué PLL dessus, puis elle était rousse. Pas rousse, mais tu sais, comme... Ambrée, si tu veux, puis c'est ça une vraie PLL anglaise. Fait que... Puis là, le monde, tu sais, comme il associait, puis là, c'était bon. Puis le monde, tu sais, t'avais vraiment le clash entre les deux, un peu comme t'as Unibrew. T'es arrivé chez tes amis que t'as Unibrew, t'as fin du monde à 7%. Le monde dit, tu n'as qu'une bière. Ouais, mais moi, je vais l'apprécier, ma bière. Puis tu sais, elle a un gros, plus gros pourcentage d'alcool. Puis tu sais, tu vas en prendre 10 pour te rendre à ma bière à moi, puis t'auras jamais le même goût dans ta bouche.
Non, il y avait des saveurs vraiment plus développées. Tu sais, ils ont bien travaillé leurs produits, puis ils ont été reconnus mondialement, Unibrew.
Oui,
là.
Oui, c'est encore très bien. Hein.
C'est juste que là...
J'ai dit bien puis bon en même temps.
C'est
ça,
bien.
C'était hot, ça.
Mais tu vois à quel point que la mode change, les habitudes changent, les découvertes changent, puis éventuellement, les gens se tannent peut-être de quelque chose. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui boivent de la micro que c'était à l'époque. Donc, on a une part de marché très large, qu'il y a du monde. Je me rappelle, il y a quelqu'un à ton bar qui me dit « Moi, si tu aurais 10 New England IPA, c'est juste ça que je boirais.
Ouais. »
Tu sais, il y a du monde comme ça puis qui vont triper. Mon approche à moi, c'est que c'est impossible qu'on ne soit pas, mais éventuellement, on a été, je vais dire, américanisé.
Ouais.
Tout est plus gros, tout est plus extrême.
Regardez
tout
ce moment, vous le disiez, j'étais pas mal plus petit que ça, mon chum.
Peux-tu poster une photo en même temps? D'emmener un petit succès souvenir, là. Mais c'est sûr que plus fort en alcool, plus fort en saveur, on veut plus en plus que ça soit puissant, puis ainsi de suite. Puis je l'ai vécu, je l'ai fait, moi aussi. Mais c'est éventuellement, je suis devenu comme saturé. Même mes vins, je ne cherche pas l'affaire la plus forte, la plus puissante. Je veux de la complexité, je veux de la qualité. Et que dans mes bières, aujourd'hui, je vais apprécier une Pilsner plus que tout. Là. C'est comme mon go-to maintenant. Là. Je suis tellement heureux, surtout que c'est long à faire à la maison et que si je peux en acheter des bonnes et qu'ils me font triper. Mais je vais toujours apprécier une IPA. Je vais toujours apprécier des affaires peut-être plus standards, mais je vais m'amuser. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui tripe ses brettes, puis j'ai voulu y goûter. J'ai pris une brette au pissenlit. Holy crap, c'était vraiment bon.
Il y a quelqu'un qui m'a dit c'était quoi la micro?
Oui, mais tu sais, c'est pour moi, je sors de mes sentiers battus, mais là, j'ai au lieu de dire ah, oh, ça, j'aime pas ça ou ça, je serais pas. Je reste ouvert d'esprit. On essaie des nouvelles affaires. Puis, en fin de compte, aujourd'hui, comparativement à 5 ans, je l'apprécie. Mais là, 5 ans, ouais. J'aurais fait comme ah, j'aime pas ça, on passe à d'autres choses. Je veux revoir mon qu'est-ce que je suis habitué d'aimer.
Sauf que moi, je suis comme ça dans ma vie. Je vais pogner des tripes. Je peux être un 2 ans à vouloir juste boire de l'anglais. Donne-moi une Pilsner, je vais aimer ça. Mais si je veux d'une brown ale, puis j'ai le goût d'une brown ale, puis j'en trouve pas de brown ale, ben, je vais être un peu triste, tu sais, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois, je vais tomber sur un trip allemand, que c'est des Kolsch, puis que c'est des Pilsner, ou c'est des Bock, puis je veux avoir le goût de ça, absolument.
Mais ça, c'est qu'on est victime de la mode et du versus commercial. Je blâme pas les micros en tant que tels parce que eux, il faut qu'ils fassent. C'est une business. S'ils vont produire une affaire puis ça se vendra pas, ça serait pas bon pour eux autres. Là. C'est pas le fun. Là. Tu produis pas une grosse batch là, qui va leur coûter plusieurs milliers de dollars puis en fin de compte, ça reste ces tablettes parce que le monde, ils vont pas chercher. Mais j'apprécie énormément. À un moment donné, je cherchais une Cream Ale. Je voulais découvrir la Cream Ale. Il n'y en a pas nulle part des Cream Ale là, dans les microbrasseries. Là. Je veux dire, vous allez essayer d'en trouver. Je n'ai peut-être trouvé une ou deux dans tout le magasin. À un moment donné, je voulais avoir une Black IPA. J'adore les Black IPA. C'est plus dur à trouver aussi. C'est ça, il y a des affaires que c'est des modes, mais moi, j'apprécie puis j'en brasse encore. Mais ça va faire que si Fitz trippe sur quelque chose, ben l'évolution, où c'est qu'on est rendu aujourd'hui dans qu'est-ce qui est plus à la mode, et l'évolution des goûts, ben on est un petit peu victime de notre entourage.
Ça me paraît, qu'est-ce que tu me dis? Parce que j'ai beaucoup de brasseurs qui me disent « Oui, mais ma demande, c'est ça. » Mais en réalité, ta demande, c'est ça. Mais moi, à mon pub, je crée une autre demande. Oui, j'en ai du monde qui boit des IPA, qui boit des NIPA, qui boit des West Coast, qui veulent pratiquement juste ça. Mais je prends la peine quand même de dire « Hey, regarde, j'ai fait une nouvelle bière au miel. Veux-tu y goûter? » J'offre ça au client. Un fond de verre au client, puis crime, au lieu de prendre une NIPA, il fait « Hey, ça fait changement, c'est bon, je vais prendre un verre de ça pour ma deuxième bière. » Tu sais, c'est...
Mais ça, c'est l'approche humaine qui change absolument tout. Ben, t'as donné l'occasion, puis t'en as parlé.
C'est-tu pour ça qu'on ne retrouve plus de NIPA, qu'on ne retrouve plus d'autres styles de bière parce que le monde demande ça, parce que c'est qu'est-ce qu'ils ont été habitués de boire. OK, je rentrais dans une microbrasserie, OK, recule vers plusieurs années. Mettons qu'on va dire une microbrasserie là, industrielle, vraiment, là, 3 brasseurs. C'est une microbrasserie, c'est plus un restaurant qu'une microbrasserie, mais c'est une microbrasserie. Puis je m'assisais, je collais une bière, un repas, puis le petit monsieur, la petite madame à côté disait « Je vais te prendre une Labatt bleue » ou « Je vais te prendre une blonde ». Il savait même pas qu'il était dans une microbrasserie. Puis lui, sa réalité, c'était de dire « Je veux le type de bière que je bois régulièrement d'un industriel. » Puis là, ben, on n'a pas de ça ici, monsieur. On va vous donner quelque chose qui ressemble, mais qui est plus goûteux. Puis on a amené les clients à boire de la microbrasserie. Maintenant, on dit non, les clients veulent ce type de bière-là, mais tu peux présenter des nouvelles bières, puis tu peux refaire le processus que, on va dire, nos ancêtres microbrasseries, qui sont pas très vieux, ont fait pour attirer la clientèle. Ça veut dire de faire goûter, d'expliquer, puis de montrer au monde des nouveaux produits, des nouvelles bières. Tu sais, l'affaire que je trouve le plus drôle, c'est quand quelqu'un dit à Kev, moi, j'aime pas la bière. Ah non! Kev, il dit, je vais te faire goûter quelque chose, c'est sûr que tu vas aimer. Puis à toutes les fois que tu l'as fait, ça a fonctionné.
Parce que surtout, quelqu'un me dit, j'aime pas la bière noire. Non, ouais. Attends une minute. Parce que ça, c'est des gens qui ont goûté la Guinness, qui ont fait l'association avec la Guinness. Et c'est fini. Fait que tu sais, ceux qui m'ont dit souvent, j'aime pas la noire, ben ils ont fait une association avec la.
La Guinness?
Oui, merci.
Ouais, mais tu ris, mais pour moi, la Guinness, c'est l'entrée de gamme, c'est comme la Bud pour aller dans la bière.
Mais ceux qui ont essayé souvent, parce que c'était disponible au restaurant, tu sais, qui était facile d'accès, donc ils ont juste fait cette association-là. Au même principe, le monde dit que j'aime pas la bière, mais ils ont fait l'association à de la bière commerciale habituelle.
Je te dirais, la noire, souvent, le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire l'association? C'est qu'est-ce qui te rappelle le plus une noire? L'huile à moteur. Fait que le monde dit « Ah, ben, c'est comme de l'huile à moteur. » Puis il y a même une compagnie qui l'appelle, une compagnie de microbrasserie, qui l'appelle la tête de gasket. Tu sais, association directe avec l'huile à moteur. C'est un beau nom, moi j'aime ça comme nom. Mais quelqu'un qui a jamais bu ça, qui lit ce nom-là, ah, dans sa tête, ça va goûter
ouais.
l'huile à moteur.
Ouais. Puis tu sais, encore là, il y a dans les juste les bières noires, les gammes sont tellement larges.
Ah oui.
C'est tellement large. Puis chacun a sa propre recette. Comment de fois que je vais goûter quelque chose qui va être un petit peu plus chocolat, café, mais dans certains cas, ils ont pris comme le grain, le black malt ou quoi que ce soit ça. C'est plus alcre, là. C'est plus ouais. comme la cendre, là. Ça, mais c'est sa recette à la personne. Mais je peux pas dire que j'aime pas la noire. C'est deux recettes différentes avec un peu le même principe que quand j'essaie d'encourager des gens. Good. Puis, qu'est-ce que tu dis que tu faisais à ton bar?
Ouais.
Goûte à ça. Mais l'habitude des gens est tellement ancrée. Quand j'ai remplacé Fitz à son kiosque, quand à Candiac, il y avait le show de cœur de pirate, j'étais là-bas avec Alex, on a fait des dégustations, je me fais poser des questions. T'as-tu quelque chose qui ressemble à de la Bud ou de la Coors Light? Mais je vais regarder. On avait une blanche, une blonde, une mild. Non, pas une mild. Une, en tout cas, la mild puis la New England IPA.
J'étais à ta place après m'écouter à la télé.
Oui, c'est gentil. Fait que je donnais une blonde. D'un fois, c'était une belle découverte pour les gens. Puis d'autres fois, c'est comme les gens sont pas prêts à faire les changements. Mais c'est le fun dans ces endroits-là pour dire bien, on va essayer des nouvelles choses. Puis j'ai pu parler, expliquer aux gens. Puis là, ça goûte toujours plus. T'as plus d'intérêt à goûter ta bière quand t'as une petite histoire en avec, une description que juste dire « Ah, tu vas goûter ça, ça, ça. Ah, ben oui.
Ben, » tu sais, tu me parlais du gars le pirate, le show que t'es allé faire pis tout. Ça me rappelle quand j'allais dans les festivals. Le premier que je suis allé, c'est Chambly, comme tout le monde. Puis j'allais là-bas pour découvrir de la bière. J'allais là-bas pour apprendre, voir des nouvelles recettes, des nouveaux styles, comment c'est brassé, comment c'est fait, parler au brasseur un peu comme je disais tantôt. Aujourd'hui, je suis pas allé dernièrement, mais les dernières années que je suis allé dans des festivals de bière, qu'est-ce que je remarquais, c'est que le monde regardait le menu, puis « Ah, ça, j'aime ça, je prends ça. » Et allait à l'autre kiosque, « Ça, j'aime ça, je prends ça. Ça, j'aime ça, je prends ça. » Fait qu'ils prenaient tout le temps à peu près le même style qu'ils connaissent, malgré que dans les festivals, souvent, ils ont 10, 12, 13 sortes de bières différentes au kiosque, plus toutes les autres microbrasseries. Ils vont aller vraiment, au lieu d'aller découvrir des bières, t'es là pour découvrir la bière, découvrir... Non, ils veulent découvrir la meilleure recette qu'eux, ils aiment, le meilleur style. J'en ai un exemple, si c'est une New England IPA, ben ils vont toutes les prendre dans tous les kiosques. Si c'est une brown, ils vont essayer d'aller tous les kiosques qui ont la brown. Puis quand il n'y en a pas, ils sont déçus, puis ils regardent le menu, ils font même pas la file pour aller voir si le brasseur fait autre chose. C'est un peu le changement de ce que nous, on faisait. On allait découvrir de la bière. On montrait au monde, puis au début, Chambly, là, le monde, il rentrait là, il pensait que c'était la Bat Molson, puis là, ouais, t'as pas... C'est quoi je vais boire, tu sais. Puis c'est de même que le monde a commencé à découvrir les stouts, qu'on découvrir les bières sûres, les bières, etc. T'sais. Fait qu'on a parti d'une mode de on faut amener le client à boire de la bière de microbrasserie à ah, là, on a un style, puis c'est ça que le monde veut.
Mais moi, mon trip dans ces endroits-là, c'est que je voulais avoir la bière du moment. Souvent, dans ouais. les festivals, c'est des bières qui ont brassé exprès pour le festival, qui sont pas à vente au bar, sont pas à vente en canne ouais. ailleurs. Ben moi, je veux goûter à quelque chose que je peux pas acheter ailleurs. Puis souvent, il y en avait. C'est là que j'ai découvert, il y a plusieurs années, j'avais été au festival à Montréal. C'est à la place Bonaventure. On a pogné le VIP. Puis j'avais plusieurs coupons. Puis j'ai été voir les Trois Mousquetaires. Pourtant, je connais très bien les Trois Mousquetaires. Mais il y avait justement les premières fois qu'ils ont sorti les stouts dans les casques avec en fût de whisky, en fût de bourbon. Puis le kiff, c'est comme, OK, on est ailleurs, là. Mais tu sais, à l'époque, il n'y en avait pas encore de ces bouteilles-là. Puis éventuellement, sont devenues comme sorties une à deux fois par année, les Baltic Porter. Puis j'en fais vieillir, puis je les adore, ces bières-là, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, de vouloir découvrir des choses comme ça, là.
Mais tu regardes au pub, nous autres, on fait des casques. C'est vraiment le casque comme que toi, d'ailleurs, j'ai encore le tien.
Oui.
on fait des casques, puis le monde, ils connaissent pas le casque, ils savent pas c'est quoi. Fait qu'on offre une petite dégustation pour que la personne puisse goûter, puis expliquer c'est quoi le casque, pourquoi c'est pas pétillant, pourquoi c'est un petit peu chaud, pourquoi, quel style de bière qu'il y a dedans. Puis souvent, le monde va dire, hey, oui, j'aime ça, regarde, j'ai jamais goûté à ça, j'ai jamais eu l'opportunité d'y goûter, je vais prendre un gros verre. Puis, on pourrait dire, non, je te le vends au verre, puis tu y goûtes. Il y a du monde qui déteste, fait c'est correct, ils n'en boivent pas, mais au moins, ils ont goûté. Puis la prochaine fois, j'en fais un quand ils vont venir, mais ce sera peut-être pas la même bière qui va être dedans. Fait que je vais encore y faire goûter. Jusqu'à temps que la personne, elle développe son goût pour la bière, pour d'autres styles de bière. Tu sais, on parle beaucoup de style depuis tantôt. La bière a parti à travers le monde avec des styles différents. C'était pas nécessairement pour être cool ou pas être hot. C'est à cause de leur eau qui était brassée avec. Puis l'eau faisait en sorte que, ben, en Angleterre, ils buvaient des bières foncées. Puis dans les régions que l'eau était moins dure, moins de minéraux, en Tchèque, en Allemagne, dans certaines régions d'Allemagne, ben, ils buvaient des bières plus pâles. Puis c'est tout simplement parce que s'ils faisaient une bière pâle en Angleterre, c'était pas buvable.
Ben, eux, veut pas, ont été pas victimes, mais c'est comme si c'était culturel aussi. La mode de ça, c'était ça. Tout le monde buvait ça, dans le temps, aimait ça.
Mais dans le temps, ils pouvaient pas faire autre chose. L'eau qu'il y avait disponible, c'était de l'eau dure. Fait qu'il y avait pas de filtre. Ils savaient même pas que la levure existait. Fait que t'as pas le choix. Tu brasses qu'est-ce que t'as avec les ingrédients que t'as, puis c'est bon. Ben, on va le faire de même. Même chose en Allemagne. Puis l'Allemagne, c'est la région qui est la plus drôle à expliquer parce que tout dépendant où que t'es, ben, t'as des bières pâles ou t'as des bières très foncées en Allemagne. Tu sais, tu vas aller chercher des Bock. C'est une bière caramel.
Ils viennent en lager.
C'est tout plus foncé. Puis quand tu vas dans la région de Pilsner, ben, c'est tout du Pils. Quand tu vas en Tchécoslovaquie, c'est tout des bières blondes, tchèques. Budweiser vient de là.
La Budvar, c'était ça?
Ouais.
La recette originale, là.
Puis elle est encore là. T'sais, c'est juste qu'à BV&B, ils vont racheter plusieurs compagnies. Mais maintenant, il y a même une guerre entre les deux parce que il y en a un qui existe avant l'autre, l'autre a mis son nom avant. Puis tu sais, c'est une belle histoire. Mais tout ça pour dire que là-bas, ils boivent juste ce style-là, pas parce que c'est la mode nécessairement, parce que c'est ça qu'ils sont habitués. Puis ça, c'est comme la sauce à spaghettes de ta mère. Quand ton père buvait de la brown, quand ton grand-père buvait de la brown, quand toi, quand t'étais jeune, tu buvais de la brown.
T'as des souvenirs, t'as une association.
Va dans un pub là-bas, c'est tout servi encore au casque.
Ah ouais, puis t'as un sentiment de bien-être de dire « Hey, c'est réconfortable. » Ben, ça fait partie de... Nous, on a notre culture, nos vieilles affaires, là. Hey, le père qui prenait sa bière avec du jus de tomate, là.
Ouais, je me suis demandé ça hier.
Pour de vrai?
Ouais. As-tu une bière Clamato? Non, j'ai plus de Clamato, fait que non, j'ai pas de bière Clamato, mais je vais te faire une smoothie. Puis là, j'ai mis la smoothie.
Mais tu sais, les vieux classiques, des fois, c'est juste réconfortant de retrouver nos anciennes souches, mais moi, je m'amuse à vouloir découvrir le monde. Fait que j'ose espérer que tout le monde va pouvoir vivre cette expérience-là aussi.
On a-tu vraiment inventé des choses? On a-tu vraiment inventé des styles de bière? Ou on est en train de reproduire l'histoire. Tu sais, si on regarde en Allemagne, parce que je parlais de l'Allemagne beaucoup tantôt, il y a une bière qui était sûre en Allemagne, qui est la...
Berliner Weisse.
C'est une bière qui était la...
Berliner Weisse.
J'aime ça quand il dit. Cette bière-là, elle était vraiment sûre, puis on, dans certaines régions, ils l'appréciaient. Ici, les bières sûres, c'est devenu à la mode, là, à peu près une dizaine d'années, qu'on a eu un gros pic avec les Gauss, avec les Berliner Weiss, c'est ça.
Mm-hmm.
Puis avec, toutes ces bières-là, sûres qu'on faisait. Au pub, c'est super facile, là. J'offre une bière sûre à quelqu'un, puis je vois faire ça. Non, j'aime vraiment pas ça. C'est correct. Je prends la même bière, je la blende avec des fruits. Ouh! Wow, c'est écœurant. Mais on n'a pas inventé la bière sûre.
Non.
On a pris un style qui venait d'ailleurs.
On s'est amusé à la mettre à notre recette.
Exactement. Puis là, on va rajouter du sel dedans pour faire un sucre salé surette qui rappelle un peu les chips, qui va rappeler un peu chico vinaigre, là, tu sais, cette affaire-là. Mais on ne l'a pas inventé, le style. C'est un style qui existait déjà. Fait qu'on a passé d'une bière sûre, super extra sûre, ah, on va mettre du sel dedans, qu'une gosse qui existe déjà, pour attirer peut-être un petit peu plus le monde, pour avoir des nouveaux goûts.
Les fruits.
Maintenant, on a fait après ça des bières aux fruits. Mais les bières aux fruits vont venir beaucoup de... pas d'Angleterre, mais de Belgique. Parce qu'ils faisaient des sûres, des spontanés, là-bas en Belgique. Puis une crique, c'est quoi? Avec des cerises dedans.
Ah, OK, ouais.
Fait que c'est une grosse cerise.
Hey, j'achetais ça, je pense, à SEQ à l'époque.
Ouais, il y en a encore.
SEQ, tu avais la lèvre à framboise, puis tu avais la crique, justement, aux cerises.
Fait que les bières belges, beaucoup de monde dit « Ah, moi, les bières belges, j'aime pas ça. » Mais
c'est large, les bières belges, c'est ça l'affaire.
Exactement, tu sais. Le monde ne va peut-être pas aimer le profil de goût de la levure, mais beaucoup de monde vont penser à une hibrou, comme qu'on pense à une lager, qu'on va penser à Budweiser. Tu sais, c'est on a systématiquement qu'est-ce qu'on connaît. Mais les bières aux fruits, c'est beaucoup belge. Rajouter des fruits dans des bières, c'est belge. Plus que Allemagne ou Angleterre.
Tu sais, la wheat beer, c'est une orange coriandre. C'est belge.
Fait que tu sais, on va aller chercher des styles comme ça. Puis là, maintenant, au lieu de faire fermenter les fruits pour aller chercher encore plus les sucres pour aller chercher des plus d'alcool, pour mettre, eux, ils fermentaient souvent spontané. Fait que c'est des brettes, des choses comme ça, des goûts un petit peu plus funky qu'il y avait dans leur bière, qui rajoutaient des fruits. Ils ont-tu commencé à rajouter des fruits parce que c'était trop funky puis le monde aimait moins ça? Puis ça cachait un peu le funky de la chose, ou que c'est souvent le fruit qui amenait la levure sauvage pour faire fermenter. Je pourrais pas te le dire, j'ai pas assez fait de recherche là-dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la bière sûre, qu'un amateur de bière sûre va faire comme « Non, tu mets rien là-dedans, moi je veux goûter vraiment ton sour, voir ton expertise et tout. » Puis on va y blender des fruits dedans. Quand t'es rendu à 10 à 50% de fruits dans une bière, non fermenté, puis non, il reste tout le sucre au complet. C'est-tu encore rendu une bière ou c'est rendu un cocktail ou c'est rendu une... C'est le fun, c'est rafraîchissant. J'en ai goûté quelques-unes, j'aime pas, j'en fais. Moi, je prends juste des petits testeurs parce que je trouve ça trop lourd pour moi. Je trouve que... Quand je finis de tourner ma pelouse, j'ai pas le goût de prendre un smoothie.
Ben, j'ai vu que même côté commercial, pour de vrai, ils appelaient ça des cocktails. Ils l'ont appelé vraiment un cocktail. C'était un mélange de bière, de jus, puis ainsi de suite, sans être un smoothie en tant que tel. Puis là, quelqu'un me disait « Hey, j'ai une bière au pamplemousse, blablabla. » Puis là, c'est comme « je goûte à ça, je suis pas sûr. » Puis comme de fait, ben, quand j'ai lu, dit « Non, c'est un assemblage. »
Est-ce que c'est pour aller chercher une nouvelle clientèle?
C'est sûr et certain. Parce que la réalité, les gens sont... Moi, je dirais que la New England IPA a été une introduction à beaucoup de personnes qui n'aimaient pas la bière.
Ouais.
Parce que la New England IPA, écoute, on le dit ouvertement, là, on l'appelle la juicy, hey, ça goûte le jus, puis ainsi de suite. Mm-hmm. Ça reste la bière, c'est les mêmes ingrédients de bière de base, ça ne change rien de ça. Mais c'est en cause qu'on vient de passer d'un extrême à de l'amertume qui goûte comme le grain, un peu la levure, tu te le quittes, à ça goûte l'orange, le pamplemousse, le fruit de la passion. Là, les gens qui n'aiment pas ça, ben, c'était une entrée de gamme. Puis je trouve que les smoothies ou les genres d'assemblage étaient une autre entrée de gamme pour une autre partie du marché qui dit « j'aime pas vraiment ça », mais en fin de compte, ah!
Ben, okay, mais je te pose une question de bord. Il reste-tu encore des vrais buveurs de bière? Parce que quand je vais à l'épicerie, quand je vais dans des dépanneurs spécialisés, quand le client qui vient à ma boutique, il me demande juste ça.
C'est ça, ben quand on dit que c'est ça la mode, honnêtement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus que jamais des gens d'amateurs de bière de microbrasserie, c'est qu'on a été chercher quelque chose de beaucoup plus large pour aller chercher le marché en tant que tel. Et que les gens sont rendus là dans leur vie.
Attends une minute. Moi, je t'explique un peu, je reviens encore en arrière quand on a commencé à boire de la bière, là, parce que j'aime bien ça dans le temps. Dans le temps, c'était bien mieux. L'entrée de gamme pour quelqu'un qui n'aimait pas la bière, quand on a commencé à boire la bière, il y avait certaines micros qui se spécialisaient dans des bières avec des arômes naturels ou artificiels. D'habitude, c'est plus naturel qu'ils mettent parce qu'ils sont quand même fiers.
La bière aux abricots de McClawson.
Bière abricot, tu avais une bière au rhum, tu as des bières au sirop d'érable, tu as des bières... tu sais, qui va te rappeler vraiment d'autres choses. Tu sais, le rhum, le ci, le ça, le ça. Ça, c'était comme l'entrée de gamme pour quelqu'un qui... Ah, j'aime pas trop la bière, mais je vais y goûter parce que ça va me rappeler mon sirop d'érable. Pis ça. Beaucoup de monde au Québec sont plus sucrés que salés. Toi, t'es salé.
Tellement.
Mais il y a beaucoup plus de monde de sucré que de salé. Fait que si t'as ramené des gosses, je pense pas qu'on aurait attiré autant de clients qu'amener une bière plus sucrée.
C'est sûr et certain.
Fait qu'on avait déjà des genres de bières de dessert. Puis, ce monde-là, c'était l'entrée de gamme pour aller attirer la nouvelle clientèle. Mais cette clientèle-là tombait à un moment donné à aller boire. Ah, va boire une stout plus régulière. Là, après ça, c'est encore le goût de café, encore le goût de chocolat, mais plus d'arôme. Ah, je vais prendre une brown ale parce que là, t'as d'autres goûts. OK, je vais aller au des mild. Puis là, il descendait les couleurs, puis à la fin, il rendrait. Ah, on va prendre une blonde, on va prendre une coche, on va prendre une blanche à l'orange. Puis là, il pouvait boire toute la gamme au complet. Aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve? C'est qu'on a tellement de sortes de bières d'entrée de gamme qu'on pourrait appeler, comme la New England IPA. Ça marche bien, ça amène une nouvelle clientèle. Fait que toutes les brasseries commencent à faire seulement ça. Puis on ne peut plus dire aux gars, là, il faut passer du la bière qui goûte le jus de fruits à une bière qui va goûter le chocolat. La marche est grosse à comparer d'avant, je trouve. C'est-tu du monde qui préférerait avoir des cocktails au lieu d'avoir de la bière? Parce que c'est bon, une New England IPA une fois de temps en temps. C'est une belle entrée de gamme pour quelqu'un, comme tu dis, une petite madame qui vient et qu'elle n'aime pas trop la bière. Ça va y rappeler son cocktail qu'elle fait à la maison. Ça va se rappeler son... Mais là, on est rendu qu'on a passé d'un extrême à l'autre extrême.
Moi, je le vois vraiment que dans la société en général, on a du choix à n'en plus finir. Et à l'époque, nos choix étaient très limités. Donc, on pouvait peut-être profiter pleinement de quelque chose pour apprendre à aimer. Notre première bière, généralement, on ne l'a jamais aimée dans notre vie. Là.
Ça pourrait être sous qu'on la prenait.
C'est comme, ah, c'est pas bon. Puis, oh, tu sais, on regardait souvent peut-être le pourcentage d'alcool, le moins cher versus la quantité, toute la kit. Puis, c'était pas vraiment bon. Mais, tu sais, c'est des goûts qui se sont développés. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je trouve que on prend plus le temps de développer ces saveurs-là.
Parce qu'on a pas assez de choix.
Non, on a trop de choix.
On a-tu trop de choix? On a tout le choix de la même chose?
Non, ben là, on a trop de choix. Ben, c'est l'avantage de tout le monde d'avoir du choix. Là. Je veux dire, je suis super content. Je te fais une parenthèse. Un album de musique.
Ouais.
À ce temps, on va acheter la toune que tu veux. Tu vas écouter la toune que tu veux, tu le quittes. Mais des fois, on achetait l'album. Puis on a appris à aimer l'album plus qu'un écoute. Puis tu le quittes. Puis en fin de compte, c'est la meilleure chose. Mais moi, je le vois que c'est...
Aujourd'hui, moi, j'achète des albums. J'achète. C'est rare que je vais acheter une chanson, à part que il y a une chanson que j'aime en particulier, je vais acheter la chanson. Mais pour les groupes que j'écoute, Flying Moody, The Dreadnought, Metallica, NoFX, Pennywise, je vais acheter les albums numériques, pas peut-être pas physiques, mais j'achète l'album au complet. Même si je sais que j'aime deux tunes sur l'album présentement, qui m'a vraiment accroché.
Mais de ton suivi là-dessus, ça veut pas dire que tu as aimé l'album, mais ça nous a souvent arrivé. Qu'à force d'écouter l'album complet, qu'on a appris comme « Ah non, c'est super bon! »
Quand je m'achète un album, puis ma blonde la capote parce qu'elle déteste quand je fais ça, mais je fais ça tout le temps, j'écoute l'album sans arrêt. Sans arrêt. Je peux l'écouter pendant un mois de temps. Pour aimer l'album. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que les premières tunes que je connais moins, je les aime moins, puis la tune que j'aime, j'ai acheté l'album pour cette tune-là, est dans le fond, dans mon char. Après ça, je réduis, puis... Là, des fois, je me rends compte que l'album est au complet au fond, puis je chante toutes les tunes au complet, puis j'apprécie toutes les chansons. Il y a des chansons que j'aime pas que je dois skipper, même après 100 000 écoutes, mais il y a tout le temps des. Il y a peut-être sur deux tunes que j'aimais sur 15. Ben là, j'en ai peut-être 10 que j'aime sur 15. Comme tu dis.
Vous faites le parallèle avec la bière? Goûtez à toutes, un petit peu. Vous allez toujours triper sur votre style, mais votre palais va grandir de découvrir, puis n'oubliez pas. C'est pas parce que vous aimez pas, un exemple, cette brune-là que la brune de l'autre compagnie va vous dire « Wow, c'est extraordinaire! »
Mais tu sais, souvent, il peut... C'est qu'est-ce que je déplore un peu d'aujourd'hui à comparer dans le temps, encore une fois, parce qu'il y avait moins de micros. Tu sais, on est rendu à 300 quelque chose micros. Il y en avait peut-être une trentaine de micros quand on a commencé à suivre ça puis à commencer à brasser. C'est que le monde voulait vraiment être dans le style de la bière. Il voulait vraiment avoir une bière... Tu ne pouvais pas te permettre, avec le monde qui buvait de la bière de micro, de rendre un produit correct.
Mais c'est pas le même marché qu'aujourd'hui.
C'est, je te dis, mais tu ne pouvais pas dire « Ah, cette bière-là est correcte, je vais la mettre sur le marché. » Non, il fallait que tu sois fier de ta bière. La bière que tu mettais sur ta tablette, la bière que tu vendais à ton pub, tu étais fier de cette bière-là parce que tu l'avais travaillée, elle était bonne, elle était dans le style, puis tu voulais que la personne... connaissent le style puis apprennent à découvrir la bière des microbrasseries. En fin de compte, la bière de microbrasserie, c'est quoi? C'est des styles à travers le monde qu'on ramenait dans notre région, qu'on brassait avec notre expertise, puis la façon dont on comprenait le style. C'est ça, une bière de microbrasserie.
À leur touche personnelle versus la recette, le grain qu'ils utilisaient.
Aujourd'hui, on en fait des pilsners, là.
Mais je pense qu'il y a eu un gros changement. Savoir, comme c'était comme une parenthèse, la vache à lait, il y a un potentiel de business, puis tout le kit. Il y a du monde que c'était « Ah, OK, on va essayer de faire de l'argent avec ça. » Il y a du monde que c'était les propriétaires, les brasseurs, les passionnés, qu'on dit « Oui, on veut ça. » Quand ma femme a suivi son cours de démarrage de microbrasserie, de démarrage d'entreprise, il y avait des gens sur place qu'eux ne connaissaient absolument rien. Ils n'ont jamais brassé. Eux, ils étaient là pour partir une business. Et tu vois la différence, puis je suis convaincu que peu importe la business dans laquelle que vous êtes, quand vous n'avez pas vraiment le cœur, la main sur le cœur sur le produit et la qualité de le kit, ils voient ça comme une business. Vous allez le goûter là, personnellement, là, à moins que vous trouviez un brasseur extraordinaire et vous donnez la carte verte. Mais ça reste un gambling parce qu'en bout de ligne.
On dit carte blanche.
C'est un gambling.
Non, carte verte, ça ne dit pas. Carte blanche.
Ça, c'est pour passer les douanes.
Aucun cave a été magané durant cet enregistrement. Je tiens à le dire. Vous me dites tout, vous me faites tellement rire. Autre parenthèse, t'es méchant avec Kev.
Il y a plein de monde.
Ouais, non, je suis méchant avec Kev. Il n'y a jamais eu un bleu.
C'est pour ça que je t'ai habillé en pantalon long.
Ouais, c'est ça. Tu sais, pour de vrai, là, je vais le chercher chez eux. J'y mets une chaîne à l'entour du cou. Je l'emmène ici. Quand on part la vidéo, j'enlève la chaîne. Puis j'ai comme un petit bâton que je le pique de même quand il veut répéter quelque chose. Il est assez vieux pour se défendre, puis il est capable de se défendre.
Mais c'est correct de prendre mon bar aussi. C'est correct. Après 4 ans... Je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux parce que je serais pas là. Mais...
Après 4 ans, même. Après 4 ans.
Je sais. Je pense qu'il faudrait que tu montes, quand tu fais le montage, que tu te censures d'un fois comme ça. C'est comme... Ah.
Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, après 4 ans, je peux pas croire que le gars continuerait à venir tout le temps. Puis à toutes les fois que je l'appelle, il est comme « Ah oui, on va y aller telle heure, OK, on va faire ça telle face. » Il est heureux de venir le faire, puis ça fait partie de la chimie, puis ça fait partie du plaisir.
Merci, là. Ben, de là que je pense qu'on se complète, là, parce qu'on est deux antipodes totalement dans la vie, dans la façon de faire les choses. On se ressemble pas en tout, là. Mais vraiment pas. Et que c'est pour ça que ceux qui trouvent Fitz rough, puis après ça qui m'écoutent, c'est comme « Ah, Kev est fin! » Ou bien il va dire « Ah, Kev est plate! » Mais Fitz, ouais! Ben, c'est ça. Je pense qu'on a un peu un mix pour faire plaisir à tout le monde. Puis au pire, aller, ben, prends-en d'un bord, prends-en de l'autre bord. Pis notre façon de penser, notre façon de brasser est différente.
On fait ça pour s'amuser aussi, là. Fait que, tu sais, quand on parle, puis je dis « Non, Kev, c'est pas vrai! » Ben, Kev, soit qui se ferme la gueule, ou soit qui fait comme « Ouais, je me suis juste trompé. »
En bout de ligne, là, je suis tellement pas orgueilleux, là, j'en ai rien à foutre. Puis des fois, je vais juste le laisser faire parce que, whatever.
C'est ça.
Whatever. Sinon, je serais malheureux, puis je serais même pas là de toute façon.
C'est exactement. Si je ferais vraiment souer, après le deuxième, t'aurais fait comme, m'envoie chez nous, je vais aller faire des choses qui me plaisent plus.
Ouais.
Fait que, parenthèse finie. Ouais. Hey, on n'a même pas parlé encore. Fermons la parenthèse de Kev qui se fait martyriser, puis battre dans un coin avec des chaînes puis des clous. On a le Patreon qu'on a ouvert avec l'adhérer sur Facebook. Si ça vous tente, si vous avez un petit 2$ à investir par mois ou plus, ça nous permet de faire plus de vidéos, de s'améliorer, d'avoir du meilleur équipement, d'avoir des bons sujets, faire plus de recherches sur différents sujets, mais aussi d'acheter du matériel pour faire des pratiques, pour faire des tests. On va redonner le goût à Kev de rebrasser. Fait qu'on va pouvoir faire vraiment des tests de bière avec deux grandfathers. J'avais dit qu'au début du podcast, j'avais quelque chose à présenter. Probablement que vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou que ça s'en vient. Ça dépend dans combien de temps je vais monter ce podcast-là. J'ai décidé de faire une nouvelle activité pour la prochaine semaine, là, 2 semaines. En gros, l'activité, le Kev est comme, de quoi tu vas dire? L'activité, c'est... J'ai déjà fait une genre d'activité-là quand j'ai ouvert le brasseur. Ça fait peut-être 4 ans que j'avais fait cette activité-là. On voulait faire un gros vidéo pour faire la meilleure bière d'été. Puis Kev n'avait pas pu venir parce que...
J'étais là. Ça l'a foiré.
Oui, t'étais là, hein?
Oui, j'étais là.
Puis ça n'a pas fonctionné. On avait fait un groupe ici, un groupe sur la Rive-Nord. Puis on avait filmé, c'était quand même bien le côté que j'avais fait de filmage, mais on n'a jamais eu les rushs des autres côtés, le montage qui était supposé être fait. Fait qu'en réalité, on avait réussi quand même pas peu notre bière, je trouve.
Je l'ai détesté.
Pour de vrai?
Je l'ai vraiment... J'y ai goûté, vous êtes comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais je l'ai vraiment détesté.
T'es un des seuls qui l'a détesté.
Je sais pas ce que ça goûtait, là, mais c'est comme, moi, j'étais pas là, mais pas en tout, là.
Mais je te dirais que le keg, il a resté une semaine, hein?
Ben, moi, j'ai probablement goûté peut-être le fond ou quelque chose dans le genre, là. Ça n'a pas passé. Ah ouais,
ça a pris une semaine, puis tout le monde tripait sa bière. Mais, ceci dit, j'ai décidé de refaire la même activité, filmée. Fait que si vous voulez participer, faut être conscient qu'on va être filmé, puis écouté, puis vous allez passer sur YouTube. Fait que je veux faire la même activité, ça veut dire qu'on va faire la meilleure bière d'automne. Fait que c'est quoi la meilleure bière d'automne? Puis je trouve que c'est un bon podcast pour l'introduire. C'est quoi la meilleure bière d'automne pour vous? C'est-tu une West Coast IPA? C'est-tu une Brown Ale? C'est-tu une bière épicée avec du poivre jaune, rouge, puis avec un peu de basilic, mais une touche de piment fort dessus? Je pense pas que c'est ça, mais est-ce que c'est... Fait que je voudrais créer deux groupes qui vont être au brasseur. Fait que premier groupe, première journée, on présente un petit peu les matières premières qu'on a, un peu le style, c'est quoi une bière d'automne, qu'est-ce qu'on veut rechercher dans une bière d'automne. Deuxième journée, Team A va créer la recette. Fait qu'on va avoir un petit cours de conception de recette avec moi. Moi, je ne veux pas participer parce que je veux me concentrer à filmer, je veux me concentrer à expliquer puis à challenger. Je suis bon là-dedans.
Oui.
Fait que je veux challenger les deux groupes. Puis, je veux pas que les deux groupes conçoivent les recettes en même temps quand ils sont dans le même local parce que j'ai juste une caméra puis je peux juste filmer un groupe à la fois. Puis, j'aimerais ça pas manquer de shots, tu sais, de bonnes shots. Fait que, meilleure bière d'automne, premier groupe, jour 1, ils font leur recette. Jour 2, groupe B. Après ça, la semaine d'après, parce qu'il faut laisser une couple de jours de disponible parce que je travaille quand même entre tout ça, j'ai un bar. Mardi, mercredi, je voudrais faire ça. Fait que mardi, Team A brasse, mercredi, Team B brasse. Après ça, on met ça en fermentation. Et qui va décider que c'est la meilleure bière d'automne?
Les gens du bar.
Les gens du bar. Fait qu'on va donner une dégustation à chaque personne qui va rentrer dans le bar, A, B, puis dire c'est quelle bière qui est laquelle la meilleure. Si les deux bières sont similaires en couleur, même le Team A et le Team B ne sauront pas laquelle est laquelle. Fait que peut-être que Kev va avoir s'y embarque, il fait une bière dans le Team A, il boit de la bière du Team B, puis il dit c'est celle-là la meilleure, pensant que c'est la sienne. Ben au moins, il va le savoir si c'est vrai ou pas. Avec les commentaires qu'on va recevoir du monde, si elle est vraiment bonne, premièrement. Fait que oui, ça va être un concours entre deux bières. Mais aussi, si le monde a vraiment trippé. Fait que si le monde trippe réellement sur les deux bières, ben ça veut dire que, un, vous avez réussi pour vos bières d'automne. Si les deux, celle qui est la plus bu puis qui est la plus aimée du monde, ben on va la faire en gros dans notre gros système. Fait que ça va être un 23 litres qu'on va commencer. Puis le team va venir brasser sa bière dans le gros système au complet pour la bière d'automne. J'aimerais ça peut-être refaire cette activité-là une fois de temps en temps. Peut-être pas à toutes les saisons, là, parce que ça va devenir redondant pour le monde. Mais je trouve que ça fait une belle opportunité pour du monde qui n'a jamais fait de recette. Fait que même si tu ne brasses pas, tu vas pouvoir venir à toi un petit cours de la matière première, c'est quoi, la façon de déguster, la façon de goûter ton houblon, la façon de goûter ton grain, les sortes de grains de disponibles, puis d'amener ta touche, parce que même si toi, tu bois pas, tu as peut-être une idée, c'est quoi une bonne bière d'automne. Ça peut être, comme je disais, avec des... On s'en fout comment vous voulez le brasser. C'est
ouais, vraiment, il n'y a pas le droit de juger. Là, que si non, vous tripez vous voulez faire ça, il va dealer avec.
Ouais, je suis là juste pour vous faire le challenge. Le but, c'est que tu gagnes. T'sais, le but, c'est de gagner. Fait que même si tu veux me faire suer en faisant une bière au piment fort ultra forte, non, mais on va en faire, là. Mais probablement que tu vas pas gagner. Puis, oubliez pas qu'il y a une vidéo sur YouTube avec vos faces là. Là. Le monde va savoir c'est qui a fait la bière. Là.
Ouais, mais peu importe les conneries, moi, je m'assume dans mon cheminement de brassage.
La seule différence que je fais à comparer de la première fois... vu qu'on prend de la matière première, qu'on va scraper de la bière, qu'on va faire des dégustations, qu'on va ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie. Il faut que je prenne deux fermenteurs, ça coûte de l'électricité. Je perds deux fermenteurs pendant ce temps-là, des petits. Puis je veux avoir du monde qui ont le goût d'être là, qui vont pas juste venir niaiser. Ça va être un coût d'entrée de 25$ par personne. Fait que si tu veux venir, ça coûte 25$ pour la formation, le show, avoir ta bière sur le tap, puis tout. Fait que 25$ par personne, je pense pas que c'est beaucoup pour qu'est-ce qu'on utilise, puis qu'est-ce que vous allez apprendre aussi. Ça fait. Puis la dernière fois qu'on l'a fait, malgré que ça a été un flop total, mais total.
Ça t'a coûté cher.
Pour les vidéos.
Ça t'a coûté cher.
Ça l'a ramené beaucoup de monde dans le groupe à se parler, puis à se fréquenter par la suite, brasser ensemble. Ils ont même fait des concours de bière à une autre place avec le groupe qui était dans le team Rive-Sud. Fait qu'ils ont fait un team ensemble, puis ils sont allés participer. Puis aujourd'hui, le monde brasse ensemble, ils se parlent sur Facebook, puis ils se réunissent. Fait que ça peut être une belle opportunité aussi pour connaître des nouveaux brasseurs, tu sais. Si tu ou tu n'as jamais brassé et tu veux savoir si tu aimes ça, ben, d'habitude, un cours que je donne, c'est 300. Là, c'est 25. Fait que c'est pas trop cher. Fait
non, puis si en plus, c'est que vous n'avez même pas besoin d'aller fermenter chez vous. Ça va être fermenté au brasseur. Tout va être vraiment sous contrôle pour pouvoir goûter le résultat que vous avez créé.
Ouais, fait que si jamais ça vous intéresse, je demanderais soit d'appeler au brasseur ou d'envoyer un courriel à info@letradionbrasseur.ca. Puis on va faire une liste de personnes, puis on aimerait ça commencer ça le plus rapidement possible. Fait que je vais sortir le podcast super vite, parce que je veux faire ça super vite. Je veux pas arriver avec une bière d'automne à la fin d'hiver. On s'entend-tu?
Ouais, prenez pour acquis là, qu'il va nous falloir à peu près un bon... On va dire un mois, mettons. Là. Mois en dire que, regarde, on commence, puis après ça, que c'est fini sur le tap, puis ensuite, là, que... Donc, faut que ça l'embraye assez rapidement.
Puis, tu sais, je vous le dis, si vous n'êtes pas là parce que vous avez quelque chose de prévu cette journée-là, je suis désolé, mais on pourra pas remettre. Là. On s'attend à avoir 8 à 10 personnes par groupe. C'est les mardis, mercredis, fait que je vous le dis tout de suite. Soit team A, team B, ça va être mardi, mercredi. On va faire les teams le mardi au laboratoire du brasseur. Fait que vous allez tous arriver au laboratoire. On va se présenter, puis on va faire deux teams, peut-être trois s'il y a trop de monde, là, mais d'habitude, c'est comme deux, ce serait l'idéal pour moi. Puis après ça, vous décidez, OK, moi, je suis plus disponible dans le team A mardi, moi, je suis plus disponible mercredi. Fine, on fait ça de même. Sinon, ben s'il y a du monde qui ne peuvent pas, je vous le dis, ça va être mardi, mercredi. On fera pas de jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche. Puis ça va être à partir de 6 heures. Fait que ça permet au monde de revenir de la maison, d'aller souper, de s'occuper un peu de leur enfant. Puis après ça, vers 6h, 6h30, on va faire les recettes puis les conceptions de recettes. Fait que si jamais ça vous intéresse, info@letradionbrasseur.ca. Kev, t'embarques-tu?
Ça dépend c'est quoi les dates.
C'est quand tu t'en vas?
Je m'en vais la première semaine d'octobre.
Kev, il va embarquer. Ben, au pire, si Kev n'est pas là pour les premières, il va être là pour le reste.
Hey, je vais bien me pointer un moment donné là, pour au pire aller mettre ma face encore sur YouTube, c'est tout. Là.
Yeah! Fait que c'est tout pour le petit podcast. Je sais que ça a été beaucoup différent des autres podcasts qu'on a fait.
On a jasé de bien.
Ouais, on a jasé de bien. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vraiment aimé l'expérience d'être moins technique, d'être plus comme...
Histoire, feeling, le développement de notre société versus la bière.
Ouais, mais notre impression, tu sais, notre ressenti.
Oui.
Puis, je pense que j'ai pas magané Kev.
À vous de juger.
À vous de juger. Fait que d'ici là, on se voit dans le prochain podcast à Nuit Olivier. Puis le prochain Kev va nous parler un peu de son trip qu'il a fait dans le
Probablement.